présence le grand entretien.
7h39, il est temps pour nous de retrouver Thibaut de Tuiles et son invité pour parler du chemin de Saint-Jacques.
Bah, vous m'avez grillé mon introduction, mais c'est pas grave. Je voulais vous refaire la question qui tue. Donc, effectivement, nous allons parler ce matin avec le directeur de l'Agence des chemins de Compostelle. Bonjour Nils Brunet.
Bonjour.
Nous allons parler des chemins de Saint-Jacques, de l'Agence des chemins de Compostelle. Pourquoi ça nous semble intéressant? Parce que vous fêtez cette année les 30 ans de la création de cette agence. Oui. 30 ans pendant lesquels on a vu le nombre de pèlerins augmenter de manière absolument considérable. Vous comptabilisiez 3500 pèlerins en 1988. Ils sont 350 000 en 2019. C'est un succès qui est complètement fou. Et entre les deux, il y a eu l'inscription des chemins de Saint-Jacques au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vais commencer par vous poser cette question. Vous êtes donc directeur de l'agence des chemins de Compostelle qui est un, ouvrez les guillemets, opérateur des collectivités locales pour valoriser ce patrimoine. Qu'est-ce que ça veut dire un opérateur de collectivités locales concrètement?
Ça veut dire que, en fait, la majorité de nos membres, nous sommes une association, la majorité de nos membres sont des collectivités territoriales, des communes, des villes, des départements, des régions. Et donc, toutes ces collectivités ont souhaité se retrouver au sein de cette agence pour assurer l'aménagement, le développement et la mise en valeur des chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
Donc ça veut dire que quand vous rassemblez tout le monde, vous louez un forum avec 350 maires qui sont là? Non, je pense pas.
Oh, pas autant que ça, mais on a quand même aujourd'hui 160 adhérents.
160 adhérents, ouais,
dont un peu plus d'une centaine de collectivités territoriales.
D'accord.
Donc c'est vrai que quand on organise nos assemblées générales ou d'autres réunions importantes, on a besoin de place.
Oui. Vous êtes situé à Toulouse parce que, le Toulouse, c'est l'épicentre des chemins de Saint-Jacques en France. Pourquoi cette...
Parce que la structure a été créée, vous le rappeliez, il y a 30 ans,
oui.
Par les régions en fait, du sud-ouest de la France. Donc à ce moment-là, c'était Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
Oui.
Donc Toulouse était assez centrale de ce point de vue-là. Et puis parce que très vite, la ville aussi de Toulouse s'est impliquée sur le sujet. Et c'est la ville de Toulouse qui nous loge aujourd'hui dans ses locaux au centre, près de la place de la Bourse. 4 rue Clément Cizor pour ceux qui veulent venir nous rencontrer.
On peut passer vous voir.
Bien sûr.
D'accord. Donc les fondateurs, ce sont les régions, une impulsion des régions avec des collectivités locales qui sont des membres. Et vous, votre rôle dans tout ça, qu'est-ce que c'est alors?
Dans notre rôle dans tout ça, c'est en fait d'accompagner le développement, l'aménagement et la mise en valeur des chemins de Saint-Jacques. Alors ça veut dire quoi derrière ces thèmes un peu génériques? Ça veut dire qu'on va travailler avec les collectivités sur les aménagements, sur les services qui sont proposés aux itinérants, aux cheminants. On va travailler avec les collectivités sur la manière dont elles peuvent valoriser leur patrimoine, la manière dont elles peuvent raconter leur histoire aux cheminants. On va travailler avec les hébergeurs sur la manière d'être un ambassadeur des chemins de Compostelle et la manière effectivement d'accueillir un public qui est un public spécifique, les cheminants effectivement avec dans une démarche avec des distances parcourues à pied, avec un équipement et du matériel, donc ça peut être aussi des éléments très 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 concrets.
Vous allez les pousser à faire des travaux par exemple ou vous allez les...
On peut effectivement les conseiller ou les amener à prévoir des aménagements ou des équipements spécifiques. Ça nous arrive assez fréquemment d'avoir des contacts avec eux, alors soit en phase de création d'un hébergement, soit un hébergement existant qui peut évoluer ou dans le positionnement peut évoluer, parce que parfois la plupart des cas les hébergements sont pas que des hébergements pour les cheminants mais aussi d'autres types d'activités d'accueil.
D'accord. Donc c'est 30 ans d'existence, 30 ans d'activité. Une grande étape au milieu de ces 30 années, ça a été le classement des chemins de Saint-Jacques au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998. Qu'est-ce qui vous a... Pourquoi avoir désiré cela?
C'est tout un contexte, en fait. Et c'est lié aussi à la création de notre structure. Les chemins de Saint-Jacques ont commencé à connaître un regain d'intérêt dans les années 80, ça a été progressif. Et à la fin des années 80, en 1987, le Conseil de l'Europe, dans une déclaration à Saint-Jacques, reconnaît les chemins de Saint-Jacques comme le premier itinéraire culturel européen. Donc reconnaît la dimension culturelle de ce chemin et la dimension de lien aussi entre les pays de la future Union européenne. Donc 1987, c'est une date importante et c'est le début des reconnaissances internationales, des reconnaissances des acteurs internationaux. Et ça va s'enchaîner de cette manière-là, c'est-à-dire qu'en 1993, l'Espagne demande à l'UNESCO l'inscription du chemin de Saint-Jacques, à l'époque Camino français, sur la liste du patrimoine mondial.
C'est venu par l'Espagne.
C'est venu par l'Espagne, mm-hmm. Tout à fait. Comme souvent, bien sûr, c'est lié aussi à la destination, oui. Au but du pèlerinage. Et avec le souhait aussi, effectivement, de valoriser cette histoire, de valoriser ce patrimoine et d'ouvrir aussi l'Espagne à l'Europe, en fait, et aux habitants de l'Europe entière. La logique étant que ça ne s'arrête pas à l'Espagne, parce qu'on est sur un patrimoine européen, sur une histoire européenne.
Par définition transfrontalier.
Exactement. Et en fait, l'ICOMOS, qui est l'organisation des experts en fait, internationaux, a encouragé d'autres États en fait, à poursuivre la démarche initiée par l'Espagne. Et la France a donné suite. Donc c'est l'État français, via le ministère de la Culture, qui s'est saisi du dossier. Et qui a commencé à réfléchir à ce qui pourrait être inscrit en France pour illustrer les chemins de Saint-Jacques. Voilà. Et le ministère de la Culture s'est associé à notre agence, à la Société française des Amis de Saint-Jacques, à la Fédération française de la randonnée pour constituer le dossier d'inscription.
Parce que c'est à la fois temporel, c'est un chemin, on marche, ce sont des abbayes, ce sont des églises, etc. Et en même temps spirituel, parce que quand on classe le chemin de Saint-Jacques, on classe aussi le cheminement, le pèlerinage.
Oui, d'une certaine façon, ce qui était compliqué à ce moment-là, c'est que il n'existait pas la convention du patrimoine sur le patrimoine immatériel,
oui.
Ce qui est arrivé un peu plus tard.
D'accord.
Donc en fait, la seule possibilité d'inscription, c'était une inscription d'un patrimoine matériel.
Donc une liste, une série de monuments.
Exactement. Et... voilà. En tout cas, des éléments physiques. Mmh. D'où de la sélection des 71 monuments en France et des quelques tronçons de sentiers qui vont illustrer la route justement. Et qui ont une vocation un peu symbolique aussi et plus immatérielle. C'est-à-dire qu'on va sélectionner à un moment ces portions de route matérielles, mais pour illustrer le cheminement, la route, l'expérience du voyage. Donc il y a évidemment une dimension immatérielle dans cette inscription, qui est une inscription pourtant principalement d'édifices patrimoniaux.
Mais alors, Niels Brunet, je rappelle que vous êtes le directeur de l'agence des chemins de Saint-Jacques. Comment est-ce que vous expliquez cette explosion de la fréquentation des chemins ces 30 dernières années? À quoi est-ce que c'est dû? Quelle est votre analyse?
Je pense que... alors, il y a une explosion à la fois en nombre et il y a une explosion géographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2019, à Saint-Jacques-de-Compostelle, on était sur 188 pays... comptabiliser des pèlerins ou des cheminants qui étaient originaires de 188 pays. C'est un phénomène mondial, en fait. C'est ça qui est étonnant. On l'explique de différentes manières. On avait fait une enquête il y a maintenant quelques années. On projette d'en faire une nouvelle l'an prochain sur, justement, les profils, les motivations du public. Et on s'aperçoit qu'elles sont, justement, elles sont multiples, en fait. Il y a la motivation religieuse, pour une part encore aussi des cheminants, dans une démarche de pèlerinage. Mais il y a une dimension aussi spirituelle, très forte, dans un sens ou une acception plus large, en fait. Un chemin comme un chemin d'expérience, comme un chemin de retour vers soi, comme un chemin de transformation, comme une expérience, un moment de rupture aussi. On l'observe beaucoup dans des témoignages. Effectivement, de rupture positive ou plus dure, c'est-à-dire dans une étape de deuil, de séparation, de perte d'emploi, mais aussi dans un besoin, un moment simplement de prendre du temps, en fait. Et je crois que le phénomène va croissant parce que il répond sans doute à des aspirations et à des transformations de notre société, à des aspirations qu'on peut avoir chacun d'entre nous, c'est-à-dire un moment de couper, d'arrêter cette frénésie, de se retrouver, de prendre le temps, de rencontrer l'autre, de prendre le temps des échanges. C'est une démarche humaniste, en fait, finalement.
Alors, j'aimerais vous faire parler des projets pour les 30 prochaines années, mais on est quand même rattrapé par l'actualité. Peut-être que dans quelques jours, les chemins seront nécessairement par eux-mêmes vidés de leur substance, sans plus aucun pèlerin, plus personne qui ne marche avec le confinement. Comment est-ce que vous vivez ces moments-là ?
C'est des moments très durs. Alors là, peut-être qu'on s'y prépare davantage encore que le confinement qu'on a connu au printemps, qui était dans le lancement en fait de l'année, avec un démarrage qui avait plutôt été encourageant sur les premiers mois juste avant le mois de mars. Donc c'est assez dur parce que souvent on construit ce projet-là de longue date, on s'y projette. Alors on doit simplement le décaler de quelques mois.
Alors vous n'avez pas d'obligation de résultat, on vous demande pas de faire des chiffres de pèlerin.
On a besoin d'être prêt pour aussi communiquer sur ce qu'on peut trouver sur les chemins, sur quel itinéraire on peut emprunter, etc. Donc on va mettre à profit la période qui vient pour préparer l'année prochaine, en espérant des jours meilleurs. Mais une petite anecdote, j'étais en contact avec un partenaire qui travaille sur le Pays Basque, qui me disait la semaine dernière qu'ils avaient observé la fermeture de la frontière en Navarre, en fait, donc l'impossibilité pour des pèlerins de poursuivre leur chemin.
Ouais.
Et la déception très 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 forte, en fait, de se retrouver coincé là,
à la frontière.
Ça fait plusieurs semaines qu'ils sont en chemin. Oui. Donc oui, c'est dur. C'est dur, mais c'est dur pour tout le monde, là, je crois.
C'est dur pour tout le monde. C'est pas une note très encourageante pour finir cette interview, Nils Brunet. Mais en tout cas, voilà, peut-être que les semaines qui s'avancent devant nous un petit peu plus dures sont aussi le moment de préparer, en allant sur votre site internet ou ailleurs, un chemin pour le printemps prochain, un printemps de la Renaissance, un chemin pour repartir sur les chemins de Saint-Jacques.
Au moment où on aura, je pense, du plaisir à se retrouver et à retrouver ces espaces.
Exactement. Merci beaucoup, Nils Brunet, d'être venu ce matin au micro de Radio Présence pour évoquer les 30 ans de l'Agence des Chemins de Compostelle. À bientôt.
Merci à vous. Au revoir.